Bonjour à tout le monde et on est bien content de vous avoir avec nous ce matin. Et si vous êtes ici pour la première fois, on aimerait vous inviter à aller chercher un beau petit cadeau pour vous. On a réservé là, pour tous ceux qui nous visitent. On a un petit quelque chose qu'on aimerait remettre. Vous avez juste à aller au kiosque en arrière. Et si vous voulez savoir, vous avez des questions pour savoir ce qu'on croit, qui on est, ce qu'on fait ici. Alors, ne vous gênez pas de laisser votre nom au kiosque. On va prendre soin de vous. On va aller vous rencontrer. Puis, on aimerait vraiment faire connaissance avec vous. C'est toujours agréable de pouvoir découvrir et mieux vous connaître et vous rencontrer. Chaque personne a son histoire et c'est vraiment agréable de pouvoir mieux se connaître comme ça. Eh bien, on a commencé une petite série, une mini-série qui va nous amener jusqu'à Pâques, et ça s'appelle, on a appelé ça Méga, en route vers le sacrifice ultime. Et la raison, c'est s'inspire de Jean 15, 13, où Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le mot grand ici est méga dans l'original. Il n'y a pas de plus méga amour vraiment que de donner sa vie pour son ami. Ses amis. Et c'est ce que le Seigneur s'apprête à faire alors qu'il prend le chemin vers Jérusalem. On peut voir, comme on a vu la semaine dernière en introduisant cette mini-série, on a regardé que Jésus a passé une bonne partie de son ministère en Galilée. Il y a vraiment une transition qui a lieu à un moment donné dans Luc où on le voit très clairement, où Jésus lui-même, très conscient de tout ça, prend le chemin vers Jérusalem. C'est dans Luc 9, et nous lisons ceci. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Alors, Jésus savait qu'il se rendait très bien ici. Il était très conscient qu'il se dirigeait vers ce sacrifice ultime à Jérusalem, où il allait s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Alors, il emprunte le chemin vers Jérusalem. Et cela va revenir à quelques reprises tout au long du livre de Luc. Nous voyons non seulement dans Luc 9, 51, ce qu'on vient de lire, que Jésus est résolu de prendre cette route vers Jérusalem. Mais on le voit un peu plus loin, quelques chapitres plus loin, dans Luc 13, 22, nous lisons « Jésus faisant route vers Jérusalem ». Dans Luc 17, « Jésus se rendant à Jérusalem ». Dans Luc 18, verset 31, il dit « Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Donc, très conscient de ce qu'il s'apprête à faire. Le chapitre suivant, dans Luc 19, il dit « Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. » Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Parce que Jésus enseignait, faisait plusieurs miracles. On lit dans les évangiles qu'il entrait dans certaines villes et littéralement tous les malades guérissaient. Phénoménal, et les gens sont éblouis, bouche bée devant la puissance et l'autorité de Jésus et sur la nature, sur la maladie, sur la mort même. Alors on croyait vraiment que le royaume de Dieu allait paraître. Luc 19, 20, 28, plus loin, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Nous lisons verset 37, toujours dans le même chapitre. Lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Maintenant, en empruntant cette route vers Jérusalem avec Jésus-Christ, on va le voir aider, secourir les gens. On va le voir guérir les malades. On va le voir faire des miracles et surtout présenter le message de l'Évangile. On le voit annoncer l'Évangile dans les villages, à chaque village qu'il va passer dans Luc 9. On le voit envoyer, même ses 70 disciples, partager le même message de l'Évangile. Donc, il les envoie en mission dans Luc 10. Il va faire des miracles à travers les différents chapitres, comme chapitre 13, chapitre 17, chapitre 18. Passe beaucoup de temps à enseigner à ses disciples. Il va leur enseigner comment prier, par exemple, dans le chapitre 11. On va le voir au chapitre 18. Il va parler à ses disciples sur la vie du disciple. C'est quoi la vie d'un disciple? Au chapitre 12, au chapitre 13 encore, au chapitre 14, on va le voir encore au chapitre 16. Il va même parler de son retour parce qu'il les prépare, parce qu'il s'en va s'offrir en sacrifice. Et lorsqu'il va mourir, il sera enterré, puis trois jours après, il va sortir. La mort ne pouvait pas le retenir. Et il va, ce qu'on appelle l'ascension, il va quitter, puis aller au ciel retrouver son Père. Donc, il va parler de son retour, qu'un jour, il va revenir nous chercher, au chapitre 17. Il va montrer, par exemple, qu'il est venu chercher ce qui était perdu. On l'a vu la semaine dernière, dans Luc 15. Il est venu chercher les pécheurs perdus. C'est pour ça qu'il passait beaucoup de temps avec des gens, même de mauvaise vie, des gens que les gens méprisaient même. Il va passer du temps avec eux, il va manger avec eux pour leur annoncer l'Évangile, qu'il est venu pour eux. Il va enseigner, comme on a vu la semaine dernière, qu'il est Jésus est le bon berger qui vient chercher la brebis perdue, la sauver, la retrouver, la ramener à la maison et avoir un festin. Il est cette femme qui part à courir chercher cette pièce manquante, la retrouve, se réjouit et fait une fête. Il est le grand frère qui part à la rescousse du jeune frère rebelle, fils, le frère prodigue, va le trouver et s'en réjouit. Et c'est ce qu'il fait tout au long de son ministère. Comme il fera le chapitre plus loin, chapitre 19, lorsqu'il va chercher Zachée, un exemple, vraiment tout un exemple, comment Zachée va venir, comment Jésus va chez lui, lui présenter l'Évangile, et Zachée va se convertir et vient Jésus. Maintenant, au chapitre 19, Jésus arrive à Jérusalem. À son arrivée, la foule est fébrile, emportée. On croyait vraiment que le royaume de Dieu allait paraître, parce que Jésus ne cesse de faire tous ses miracles. Les gens sont tout à fait éblouis de voir tout ce qui se passe. Et c'est son entrée triomphale, un passage bien connu, l'entrée triomphale à Jérusalem, au chapitre 19. Mais Jésus se lamente sur Jérusalem, parce qu'il connaît le cœur des gens. Il sait très bien que les gens sont impressionnés par ce qu'ils voient, les miracles et tout ça, mais leur cœur ne change pas. Ils ne veulent pas vraiment Jésus. Ce qu'ils veulent, c'est ses bénédictions, c'est les miracles, c'est les belles choses. On veut guérir. Alors Jésus se lamente sur Jérusalem. Il dit, « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et voilà Dieu qui prend la forme d'un homme, vient à Jérusalem, appelle les gens à se repentir et se tourner vers lui. Mais les gens le rejettent, le refusent. Et Jésus dit, tu n'as pas connu ce temps où tu as été visité. Dans le fond, Dieu visitait son peuple. Jésus entre dans le temple et voit ce qui se passe, et voit l'hypocrisie, la manipulation, comment on se servait même de la religion pour mousser sa gloire et l'argent et tout ça. Et il va faire le ménage dans le temple, dans le chapitre 19. Et il va passer quelques jours au temple enseigner. Il enseigne au temple. Maintenant, si la foule s'agitait de voir Jésus, de l'entendre et entendre ses enseignements et voir ses miracles, l'histoire est bien différente pour les chefs religieux du temps. Voyez-vous, les chefs religieux de l'époque étaient jaloux de la gloire, du succès, de la renommée de Jésus-Christ et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il enseignait, et comment la foule était attirée par lui. Les chefs religieux comme les sacrificateurs, les pharisiens, les rabbins, les scribes, tous ces gens-là étaient jaloux de Jésus et voulaient vraiment de plus en plus que Jésus approchait Jérusalem, de plus en plus que la pression s'intensifiait et on voulait vraiment tuer Jésus. Alors les chefs religieux le confrontent à plusieurs reprises et ça s'intensifie de plus en plus à vouloir l'attraper, le coincer, le piéger, pour le faire tuer et l'éliminer. Ça s'intensifie surtout lorsqu'il approche à Jérusalem, si bien qu'on arrive au chapitre 19, et nous disons au verset 47, « Jésus enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple, cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait et l'admirait. » Alors, les chefs religieux ne voulaient pas faire une émeute. Alors, ils ont essayé, ils ont réfléchi, ils ont essayé de voir comment ils pouvaient attraper Jésus. Alors, les chefs religieux vont lui poser une question. C'est l'une des confrontations. Alors qu'on arrive, on est à Jérusalem, on est là. Et les chefs religieux vont essayer de le coincer. Ils vont lui poser une question dans Luc 20, versets 1 et 2. Il dit, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Alors, un de ces jours où il est en train d'enseigner dans le temple, et il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent. Et ils lui dirent, veux-tu bien lui dire quitter? Dans le fond, ce qu'ils vont lui demander, c'est pour qui tu te prends? C'est vraiment une insulte, mais en même temps, dans le fond, la question est celle-ci. Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? En d'autres mots, pour qui tu te prends pour faire ce que tu fais? Pour qui tu te prends pour enseigner ce que tu enseignes, nous reprendre et tout ça? Tu te prends pour qui? Alors Jésus va répondre. Premièrement, il va répondre par une question. Après ça, il va répondre par une parabole qu'on appelle communément la parabole des vignerons. Et c'est une parabole très dure à l'endroit justement des adversaires. On n'aura pas le temps de voir vraiment cette parabole. Ce n'est pas là où on veut s'arrêter. C'est justement dans le passage qui va suivre. Mais essentiellement, ce que Jésus va faire, c'est qu'à travers la parabole des vignerons, ce qu'il va leur dire et ce qu'il est en train de leur dire, c'est « Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. » Voilà qui je suis. Il l'a dit clairement à travers la parabole. Et les gens l'ont bien compris. Les adversaires l'ont très bien compris parce que ça le dit. Ça dit que la parabole s'adressait à eux. « Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Vous allez me tuer. Vous allez me sacrifier. » Mais je vais revenir et je vais vous juger. Vous serez jugés de m'avoir rejeté. Et mon sacrifice va en sauver plus tard, plusieurs. En d'autres mots, pour certains, je vais être une pierre d'achoppement. En d'autres mots, pour vous autres. Je vais revenir et je vais vous juger. Vous serez jugés. Et c'est arrivé parce que quelques années plus tard, c'est la destruction de Jérusalem en l'année 70. Juste quelques années plus tard, c'était la destruction. Tout le temple était brûlé, tout a été brûlé par l'empereur Titus. Mais cela était préfiguré un jugement qui viendrait beaucoup plus tard, qui est le jugement dernier, qui est l'enfer. Et tous ceux qui auront rejeté Jésus seront jugés, iront en enfer. C'est le jugement dernier et Jésus les avertit très sévèrement dans cette parabole, la parabole des vignerons. Et il y a tous ceux, d'ailleurs, qui vont rejeter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. En même temps, cela dit, en même temps, Jésus dit, je suis une bénédiction, par contre, pour ceux et celles qui vont me recevoir et croire en moi. Je vais être une bénédiction pour eux. Heureux ceux qui vont croire en moi. Maintenant, c'est toute une autorité. C'est la réponse que Jésus est en train de leur donner à ses adversaires. Pour qui je me prends? Bien, je me prends. Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Et le jugement m'appartient. Je sauve et je condamne. Je sauve et je juge. Voilà mon autorité, désignée par Dieu parce que je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Ça, c'est toute une autorité. Jésus répond en leur disant, « Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Je suis la pierre angulaire. » Ça, c'est l'image qu'il va employer. « La pierre angulaire du temple. Je suis la pierre angulaire de toute la maison de Dieu. » La maison de Dieu, c'était pour les Juifs, c'était la présence de Dieu. « Je suis la pierre angulaire de la maison, de la présence de Dieu. » Très fort ce qu'il dit. Quelle autorité. La réaction des adversaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, les chefs religieux la haïssent encore plus. Nous lisons verset 20. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même. Là, c'était assez. Ils voulaient l'arrêter tout de suite. Ils voulaient sauter dessus pour l'arrêter. Ils sont pris parce que la foule, ils ne veulent pas créer une émeute. Parce que la foule aime Jésus. Aime ce qu'il dit. Ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Maintenant, ces leaders religieux essaient de trouver un autre moyen pour détruire Jésus. Ils réfléchissent, ils pensent. Ils arrivent à la conclusion, ils arrivent avec quelque chose de vraiment intéressant. Ils arrivent avec une technique, une approche très habile. D'ailleurs, les armées se servent de ça. On va choisir des espions. On va engager des espions. Ils vont s'infiltrer dans la gang des disciples. Ils vont écouter ce que Jésus dit. Puis là, aussitôt qu'il dit quelque chose de compromettant, qui va à l'encontre de l'Empire de Rome, on va le pincer, on va le prendre, on va l'emmener tout de suite. Il va être fait. Maintenant, si Jésus parle contre le gouvernement de Rome, on aura juste à avertir les Romains, puis ils vont venir le saisir, puis nous autres, on s'en lave les mains, ça ne passera pas sur notre dos. C'est ça la stratégie. Alors, quel sujet prendre? Quel sujet prendre? Alors là tu t'infiles, tu commences à jaser, tu te lis d'amitié avec les disciples, tout ça, tu t'invites, prendre un café, tout ça, un latte, un cappuccino, là, c'était là, tu étais avec les disciples, et tout ça, à un moment donné, tu es en train de jaser. Et là, quelle question on pourrait poser qui serait tellement un sujet sensible et délicat qu'on pourrait être certain de pincer Jésus? Quel sujet tu penses? Les impôts. Hey, les impôts. Y a-t-il un sujet plus sensible que ça? Le fisc. Les impôts. Donc, on va aller lire ce qui se passe dans Luc 20, verset 20, jusqu'au verset 26. Alors, 20-20. Luc 20, verset 20, et on va poursuivre la lecture jusqu'au verset 26. Juste avant, d'accord, on va prier. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, te remercier pour ton esprit, pour ton Église. Je pense à toute cette équipe de louanges ce matin qui nous conduisait en louange vers toi. Je pense à Stéphanie au café ce matin qui était au service de ton peuple pour donner du café, servir. Je pense à Lise et tous les moniteurs, monitrices. Je pense à toute l'équipe de son et les gens à caméra. Et tous ceux qui ont travaillé, préparé le bulletin, préparé les annonces, le PowerPoint et toute la multitude de personnes ici, tes enfants qui sont à ton service, qui travaillent pour ta gloire et pour servir ton peuple. Merci pour cette belle famille. Comme disait si bien Pierre dans sa prière tantôt, merci pour ta famille. On est frères et sœurs, on est une belle gang, content d'être en famille. Merci Seigneur. On te prie que ton esprit puisse illuminer les yeux de notre cœur ce matin, nous aider à comprendre ce message si profond que livre Jésus. Et Seigneur, on est émerveillés par ta parole. Parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, Luc, chapitre 20, verset 20. Vous êtes là? Ils se mirent à observer Jésus. Alors là, on parle des adversaires de Jésus, ces espions qui sont là, qui sont infiltrés. Ils se mirent à observer Jésus. Ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles afin de le livrer au pouvoir, c'est-à-dire à César, à Rome, et à l'autorité du gouverneur. Verset 21. Ils lui posèrent cette question. Maître, ce qui suit, c'est tellement beau. On pourrait faire un cantique de louange avec ce qui va suivre. C'est vraiment beau. Il dit, Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. C'est pas beau, ça? Amen! Hein? C'est bien. C'est super. Il dit, Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec l'apparence... Que tu enseignes avec droiture, que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Verset 22, la question qui tue. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Il faut comprendre la question, là. Ce sont des Juifs. Et l'empereur, c'est César, c'est Rome, que les Juifs haïssaient. Ils avaient juste hâte d'avoir un Messie qui allait les écraser pour reprendre le contrôle d'Israël. D'accord? Il faut comprendre le contexte, là. Ils sont encore un peu en exil chez eux. Ils ne sont pas chez eux, mais ils sont chez eux. Ils sont sous l'empire, le contrôle, l'emprise de Rome. Donc, c'est vraiment un piège ici. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ou à César? Est-ce qu'on devrait payer de l'impôt à César? Mais verset 23, Jésus discerna leur ruse et leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? » Verset 24, il dit, « Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie ou l'image? » Et l'inscription? Mais de l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Alors, verset 20, ils se mirent à observer Jésus, ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être justes pour le prendre au piège de ses propres paroles afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Alors, il lui pose la question, il dit, « Maître, on sait que tu parles, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. » Hey, c'est tout un compliment, ça. Tu ne trouves pas que c'est tout un compliment, ça? Hey, c'est tout un compliment. Ou est-ce que c'est de la flatterie? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un compliment et la flatterie? Il y a un jour, il y a une chrétienne qui a remarqué, a juste souligné le travail fort d'un frère à son église. C'est à notre église, ça, à Laval. Et elle avait remarqué, elle disait, « Bon sang, tu travailles fort. » Savez-vous ce que le chrétien a répondu? Il dit, « Arrête donc de me flatter. » Il était sérieux, là. « Arrête donc de me flatter. » C'est très agréable, se faire dire ça, se faire répondre ça. Si tu donnes un compliment à quelqu'un, il dit, « Arrête donc de me flatter. » Ça, c'est vraiment encourageant. Est-ce que je peux vous dire que cette femme-là n'a plus jamais fait de compliment à ce gars-là? Ça a arrêté, niette, là, fini, on arrête ça, là. C'est-tu pas arrogant? Moi, franchement, il y a des gens, on dirait que ça n'a pas vie. Tu parles d'une réponse. « Arrête de me flatter. » C'est une tape dans le visage, ça. C'est arrogant. Mais c'est quoi la différence? Un compliment, faire un compliment ou flatter. Est-ce que les adversaires de Jésus font un compliment ou sont en train de flatter Jésus? Parce que qu'est-ce qu'il dit, l'enfant? C'est vrai. Tu enseignes avec droiture, tu ne tiens pas compte de l'apparence et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Comment savoir la différence? C'est quoi la différence? Maintenant, Ken Hughes a donné vraiment une super de belle définition de la différence entre la flatterie et un compliment. Super! Oh, j'aime tellement ça! Je vais vous le lire. Après ça, je vais vous le montrer sur PowerPoint. Puis je vais vous le relire. Je suis égoïste parce que j'aime tellement ça. Là, je veux le relire, j'aime ça. Écoutez bien ceci, d'accord? Hey, moi, j'ai trouvé ça super. Il dit, « La flatterie est l'image miroir inversée du commérage. » Il dit, « Le commérage consiste à dire dans le dos d'une personne ce qu'on ne lui dirait jamais en face. La flatterie consiste à dire en face d'une personne ce qu'on ne dirait jamais dans son dos. » Hein? Hein? Oui. C'est-tu bon? À Ken, là? Hey, Ken, t'as fait du bel job. Hein? C'est-tu bon? Vois-tu la différence? Laisse-moi te le montrer. J'aime tellement ça, c'est tellement vrai. La flatterie est l'image miroir inversée du commérage. Il dit, le commérage consiste à dire dans le dos d'une personne ce qu'on ne lui dirait jamais en pleine face. Mais la flatterie consiste à dire en face d'une personne ce qu'on ne dirait jamais dans son dos. En d'autres mots, tu ne le crois pas. C'est ça la flatterie. Puis on sait bien que les adversaires, ils ne croyaient pas du tout. Ils voulaient juste le planter, ils voulaient juste l'avoir, puis l'arrêter, puis le coincer, puis le piéger, puis le faire tuer. Ils ne croyaient pas. Ça, c'est de la flatterie. Un vrai compliment est quelque chose que tu dis autant en face de la personne que dans son dos. Tu le crois vraiment? Voilà la différence entre dire un compliment et une flatterie. Parce que sans ça, c'est ce que la Bible appelle la duplicité. Un visage à deux faces. Jacques 3, 17 dit ceci, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité. d'hypocrisie. Parce que dire un compliment, c'est une bonne chose. On a besoin de ça. À ton travail, lorsque ton patron vient te dire, souligne des bonnes choses que tu fais, est-ce que tu dis, arrête de me flatter? Absolument pas. C'est agréable. C'est même prouvé. C'est prouvé que ça fait du bien. C'est bon. C'est même rentable. Dire des compliments. On a besoin de ça. C'est un principe de base. D'ailleurs, ça fait des meilleurs mariages que de souligner les bonnes choses de ton partenaire. C'est même mieux pour les enfants. Et là, tu dis, oh, mais c'est parce que je ne veux pas lui enfiler la tête. Je me suis déjà fait dire ça. Bon, je ne veux pas le flatter, hein, parce que je ne veux pas t'enfiler ta tête. Laisse-moi te dire une affaire. C'est le dernier, mais dernier de tes problèmes d'arriver à la place que tu complimentes tellement que tu complimentes trop. Sais-tu pourquoi? Parce que par défaut, ta nature, tout de suite, tu vas critiquer. C'est prouvé, les études montrent qu'on critique 10 fois plus qu'on complimente. Donc, je peux te dire une affaire, tu n'as même pas besoin de te soucier d'arriver à la place que tu complimentes tellement. Ça ne t'arrivera jamais. D'ailleurs, pense-y 2 secondes. Là. À quand remonte la dernière fois là, que quelqu'un est venu te voir et dit, « Oh, je suis assez tannée. » Donc, je suis allé ce matin, je suis sorti dehors, là, puis ma femme me dit, « Oh, tu es tellement beau. Arrête pas de me dire des compliments, ma femme. Mon mari, arrête pas de me dire que je suis belle. Ah, je suis tellement tannée, je suis plus capable. Priez pour moi. Ma femme, arrête pas de dire des bonnes choses sur moi. T'en souviens-tu? Ça fait combien de temps que t'as entendu ça? Par défaut, je peux te le dire. Comme dirait si bien Joël, dans tous les problèmes du monde entier, trop faire de compliments, laisse-moi te dire que c'est à peu près là, là. Ça t'arrivera pas. Tu n'auras jamais ce problème-là. Ceci étant dit, on a besoin, par contre, de nous éloigner de la flatterie hypocrite. Que tu dis des belles choses, mais tout de suite, quand tu es dans le dos, tu commences à commérer et parler en mal de la personne. Ouais? Ça, c'est la flatterie. De dire des bonnes choses, des bons compliments, mais tu ne crois pas en tout. Puis dès que tu es parti dans le dos de la personne, tu dis autre chose. Ça, on a besoin de nous éloigner de ça, par exemple. On a besoin de plus de compliments, moins de flatterie, moins de commérage. Est-ce que j'entends des amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Maintenant, c'est ce que les adversaires faisaient. Ils faisaient de la flatterie, vraiment, parce qu'ils ne croyaient pas du tout. Ils viennent flatter Jésus, mais au fond, mon ami, ils veulent le tuer. C'est quoi de le dire? Ils veulent le détruire. Ils veulent le piéger. Alors, ils posent une question. Une question... Tu ne pouvais pas avoir une meilleure question que ça. C'est tellement sensible. Nous est-il permis ou non de payer de l'impôt à César? C'est très sensible. Maintenant, Marc va ajouter un détail vraiment intéressant ici. Marc, qui raconte la même histoire, va ajouter un petit détail qui va nous aider à comprendre la sensibilité du contexte en ce moment. Regardez bien ce qui se passe. Marc va dire, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens. Mon ami, ces gars-là ne travaillaient jamais ensemble. Ils s'haïssaient. Les pharisiens et les hérodiens, ils les ont envoyés afin de prendre au piège Jésus de ses propres paroles. Les pharisiens et les hérodiens, ils n'étaient pas capables de s'entendre. Mais là, tout d'un coup, ils haïssent tellement de Jésus qu'ils ont dit, on va travailler ensemble pour essayer de le piéger. La haine cimente. Tu vois, hein? Tu commences, les gens qui critiquent, tu vas te coller à d'autres, là. Tu vas pouvoir critiquer, là. Les pharisiens étaient des nationalistes invétérés. Ils attendaient le royaume messianique afin de renverser les Romains. Ils voulaient juste comme détruire les Romains. C'est un messie qui pouvait se lever avec une épée, puis tiens, on s'en va en guerre contre les Romains. De leur côté, les Hérodiens avaient fait plein de compromis avec le gouvernement. Ils avaient négocié un paquet de choses, des privilèges. Ils faisaient des compromis afin de pouvoir avoir un genre de privilèges et toutes sortes d'avantages et tout ça. Alors, les pharisiens représentaient vraiment l'aile conservatrice, les juifs conservateurs serrés, alors que les hérodiens faisaient plein de compromis avec le gouvernement. Mais là, c'est drôle parce que la haine envers Jésus les unit ensemble. La haine va les cimenter ensemble. Les pharisiens haïssaient Jésus qui dérangeait leur agenda religieux et les hérodiens l'haïssaient parce qu'ils menaçaient les accords qu'ils avaient eus, obtenus, les avantages qu'ils avaient obtenus avec les Romains. Voyez-vous? Voici le piège. La question des impôts était majeure, très sensible. D'ailleurs, un historien de l'époque, Flavius Joseph, c'est un historien dont on a les écrits, il existait dans le temps là, du Nouveau Testament, puis il a écrit, et on a ça même en français aujourd'hui, ça a été traduit, nous rapporte qu'à l'époque où Jésus était petit, jeune homme, les taxes romaines ont causé même des révoltes chez les Juifs. Ils ne voulaient pas payer la taxe chez les Romains. Donc, c'est un sujet très sensible. Il y a eu toutes des révoltes à cause de ça. Maintenant, regardez bien le conflit, le dilemme. Si Jésus répondait non, ce n'est pas juste de payer de l'impôt à César, il se ferait arrêter sur le champ. Les Hérodiens allaient se précipiter chez Pilate et Jésus se ferait arrêter comme rebelle et exécuté sur le champ sans disposition légale. Parce que voyez-vous, Rome tolérait la diversité religieuse. Mais la tolérance était zéro pour les conflits politiques. Zéro. Aucune tolérance. On t'aurait exécuté sur le champ. Et là, ils vont placer Jésus là. Alors, si Jésus dit, non, c'est pas juste de payer d'impôts à César. Oh, oui, il gagnait des Juifs, mais tout ça, il était fait avec les Hérodiens, il était mort. En revanche, si Jésus répondait, oui, il faut effectivement payer ses impôts à César, il s'isolait du peuple. Les pharisiens se seraient fait un devoir et un plaisir de répandre le message de Jésus et que Jésus est un ami, un collaborateur loyal des Romains et le peuple l'abandonnerait avec dégoût. Vous voyez? T'es pris, là. C'est tout un dilemme, c'est tout un piège. C'est savant comme approche, comme stratégie, c'est savant. Les Hérodiens et les pharisiens disent, il est fait, on l'a, là. Il est mort. Les pharisiens et les Hérodiens sont convaincus de l'avoir à ce point-ci. Il n'y a aucun moyen de sortir de ça. C'est tout un dilemme. Alors Jésus a vu ça, Jésus comprenait très bien ce qu'ils étaient en train de faire, verset 23, Il a vu au-delà de la flatterie. Il a dit, Jésus discerna leur ruse et leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? » Il dit, « Allez me chercher un denier. Allez me chercher ça. Montrez-moi une pièce de monnaie, un denier. » Pose la question, il dit, « De qui porte-t-elle l'image et l'inscription? » Ben, il dit, « César. » Il répond, « C'est César. » Bon. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ouais? Leur réaction est pas mal forte. Verset 26, ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple, étonné de sa réponse. Ils gardaient le silence. Alors, quelle image se trouve sur le denier? Il dit César. Maintenant, tout homme et toute femme devait payer un denier, ça c'était le montant qu'il fallait donner, juste à Rome, juste pour avoir le privilège d'exister. Et ça les mettait en fusil. Tu existes? Donne un denier. C'est un privilège que tu existes. Donne un denier. Les Juifs, là. Alors, tout homme et toute femme doivent payer un denier au fisc impérial de Rome, juste pour le privilège d'exister. Et cette taxe devait absolument être payée par le denier sur lequel se trouvait l'image de César. Maintenant, pour les Juifs, sérieux, l'image de César sur une pièce de monnaie, c'était un scandale parce que c'était écrit à côté de César, divin César. Et ça rentrait vraiment à l'encontre du second commandement, pas se faire des images de Dieu, etc. Mais pourtant, Jésus va prendre le denier, puis il dit, regarde le denier. Il dit, rendez à César ce qui est à César. Et ce qui est à Dieu. Maintenant, c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait un avocat. Il y avait un avocat qui n'était pas chrétien et était en train de négocier tout un litige, puis il était comme devant une impasse, il ne savait pas trop comment régler l'affaire. Fait finalement, il a croisé un chrétien qui a donné un Nouveau Testament, puis il a dit, écoute, tu devrais commencer à lire le Nouveau Testament. Puis il est en train de négocier sa cause-là, puis il a décidé, tu sais, chez Dieu, commencer à lire le Nouveau Testament, puis il a tombé juste là, devant la déclaration de Jésus, rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Un avocat, là. Quand il a vu ça, la première fois qu'il voyait ça de sa vie, quand il a vu ça, littéralement, il a échappé sa Bible à terre. Puis il a dit, quelle sagesse! Il venait de régler son dossier devant lequel il y avait tout un impasse depuis un bon moment, puis il travaillait fort, puis il dit dur, juste avec la déclaration de Jésus-Christ. Ça venait de Elle venait juste de l'aider à régler le problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est très important parce que ça fait une grosse différence pour nous aider à comprendre ce qui va se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Antiquité, on comprenait clairement qu'une pièce de monnaie appartenait à la personne dont l'image figurait sur la pièce. C'est logique. En d'autres mots, la pièce appartient à l'image qu'elle porte. OK? Ça, c'est très clair, ça. Ça, dans ce temps-là, on ne se passait pas la tête avec ça, c'était bien clair. La pièce appartient à l'image qu'elle porte. OK? Alors, si l'image de César est sur la pièce, il y en a le propriétaire. Qui pouvait rouspéter à donner à César ce qui lui appartient déjà? D'accord? Premier message de Jésus, donner au gouvernement ce qui appartient au gouvernement. Paye tes impôts. Maintenant, c'est intéressant parce que les historiens aujourd'hui affirment que cette déclaration de Jésus représente certainement la déclaration politique de poids la plus influente jamais prononcée. Cette déclaration a été décisive à former la civilisation occidentale. D'ailleurs, plus tard, Paul, dans Romains 13, va revenir avec ça, il va aller un peu plus loin, voici ce qu'il dit. Il dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Maintenant, ça laisse entendre que le gouvernement est une institution valable, même si elle est imparfaite. Même si elle est imparfaite. Parce que là, on va critiquer, on va dire, oui, mais regarde, c'est tout. Ils ont des pécheurs. Même si elle est imparfaite. L'ancien aumônier du Sénat américain, Richard Alverson, le dit comme ceci. Il dit, certes, les hommes abuseront de l'institution d'État, tout comme ils ont abusé toutes les autres institutions, même de l'Église de Jésus-Christ, en raison du péché. Cela ne signifie pas que l'institution est mauvaise ou qu'elle devrait être abandonnée. Cela signifie simplement que les hommes sont pécheurs et rebelles dans le monde de Dieu et c'est la façon dont ils se conduisent avec de bonnes institutions. D'ailleurs, le péché est la raison pour laquelle nous devons avoir des gouvernements afin de maintenir l'ordre dans l'histoire jusqu'à ce que le règne ultime et final de Jésus soit établi. Le gouvernement est mieux que l'anarchie et le chrétien doit reconnaître le droit divin de l'État. Car après tout, mieux vaut un État mal géré que pas d'État du tout. Maintenant, oui, évidemment, il y a des limites à l'autorité du gouvernement. Par exemple, lorsque le gouvernement veut te demander de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, on a vu ça dans Actes 4:5, lorsque Pierre est jeté en prison, puis tout ça, puis ils insistent à ce qu'ils arrêtent de parler de Jésus dans la ville. Alors, ils sont jetés en prison, on voit ça dans Actes 5. On n'aura pas le temps vraiment de le lire, mais essentiellement, je pense qu'on connaît l'histoire, ils se sont fait mettre en prison à cause de l'Évangile, puis on leur a dit, les autorités, qui est le Sanhédrin, qui était vraiment le droit, c'était le gouvernement juif, les obligeaient à se taire, d'arrêter de parler de Jésus, les autres ont continué, ils sont sortis dehors, ils ont arrêté, ils mettent les prisons, tout ça, ils ont relâché, mais ils sont aussitôt sortis, ils ont recommencé à prêcher l'Évangile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu regardes dans le monde, il y a de la persécution à travers le monde, parce qu'il y a des gouvernements qui ne veulent pas qu'on parle de Jésus-Christ. Mais tu continues, puis les gens le font à travers le monde. Il y a eu plus de persécutions, hein? Dans la dernière année 2014, un record, la persécution à travers l'histoire de l'Église. D'ailleurs, 2015 n'a pas commencé mieux. Ça a l'air qu'on va peut-être même briser un autre record. Ça va. Il y a la persécution à travers le monde, à cause de l'Évangile. Donc, oui, il y a certainement des situations où on ne peut pas se soumettre au gouvernement lorsqu'il lui demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, clairement énoncées dans la parole. Mais sinon, on veut suivre ce que la parole de Dieu dit en se soumettant au gouvernement, en suivant le gouvernement. On ne veut pas jouer dans nos impôts, on veut payer nos impôts. T'sais, on ne veut pas faire comme le gars qui écrit une lettre au gouvernement, à Revenu Canada. Puis il dit, écoutez, j'ai des remords de conscience. Finalement, voici un chèque de 175$. Je sens mal, tout ça. Fait que je vous envoie un chèque de 175$ sur des impôts que j'avais pas payés dans le passé. T'sais. Fait qu'en bas de la lettre, c'était écrit une petite note, c'était écrit PS. Si je me sens encore coupable, je vais vous envoyer le reste. Alors, le message de Jésus, c'est de donner au gouvernement ce qui appartient au gouvernement. Maintenant, la première réponse de Jésus, c'est pas ça qu'il a fait tomber à terre. Là. Tout le monde savait qu'une pièce appartenait à l'image qu'elle portait. On savait ça dans l'Antiquité. C'est pas ça qu'ils ont jeté à terre. Là. Les gens savaient ça. C'est quoi qu'ils ont assommé? C'est l'autre partie de ce qu'il vient de dire. Et là, Jésus dit ceci. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, à partir du moment que je sais qu'une pièce appartient à l'image qu'elle porte, laissez-moi vous poser une question. Quelle image portez-vous? Voyez-vous Jésus aussi en va? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Chacun d'entre nous, nous portons l'image de Dieu sur nous. Alors, à qui on appartient? C'est ça qu'ils ont jeté à terre. Ça, c'est la vérité que Jésus est en train de leur donner. Et moi, ça me frappe de voir la compassion de Jésus qui vient de donner une parabole pour leur dire, le jugement s'en vient, vous avez besoin de vous convertir, le jugement s'en vient. Il voit ses adversaires, les adversaires sont là, ils ne veulent rien savoir, ils veulent encore le piéger avec les impôts. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il tend encore la main, puis leur dit, donnez-vous à Dieu. Il les invite encore. Voyez-vous la compassion et l'amour de Jésus-Christ? Il les invite encore à se donner au Seigneur, de changer leur cœur, puis venir à Jésus-Christ pour un salut, pour son salut. Donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Genèse 1, 27 le dit clairement, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Chaque être humain porte l'image de Dieu. Il est marqué de l'effigie de Dieu. L'inscription sur chaque être humain devrait nous rappeler qu'on appartient à Dieu. Porter l'image de Dieu signifie qu'on est conscient, par exemple, du bien et du mal, ce que les animaux n'ont pas. On a ça, nous autres, cette conscience-là, la culpabilité. Ça fait de nous, il y a tellement de choses dans l'image de Dieu, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que David arrive à la place qu'il dit, je suis une créature si merveilleuse. Parce qu'on se distingue. C'est pas David qui va dire, je loue Dieu. Je loue Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. David reconnaissait que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous portons l'image de Dieu, alors on appartient à Dieu. Incroyable. Une compassion envers des adversaires qui veulent le piéger. Mais honnêtement, on a fait la même chose. On a tourné le dos au Seigneur, soyons honnêtes. Qu'avons-nous fait? On s'est rebellé à notre Créateur. On l'a tassé. On lui devait tout. On n'a pas voulu lui remettre notre vie, lui donner notre vie. On l'a gardé pour nous. Alors, Jésus vient, il vient se donner pour nous. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Dans Hébreux 1, 3, par exemple, nous lisons, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte, l'image de sa personne. Il est l'image parfaite de Dieu. Et l'image de Dieu est restée parfaite. » Tout au long de sa vie, Jésus n'a jamais péché, s'est jamais rebellé contre son Père. Il n'a pas souillé ni terni l'image de Dieu. Il est l'image parfaite de Dieu. Et à la croix, les amis, à la croix, l'image parfaite de Dieu, Jésus, a pu rendre finalement à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voyez-vous? Par son sacrifice, maintenant que je suis en lui, que je suis venu à Jésus, maintenant que je suis en lui, je suis changé de jour en jour afin de rassembler davantage à l'image de Jésus-Christ. Puis un jour, ça va être extraordinaire. Parce que lorsque je vais rentrer dans l'éternité, je serai dans sa présence. Il va me changer du tout au tout, complètement, enlever tout le péché. Tout ce qui ternissait l'image de Dieu en moi va être enlevé. Et là, je serai parfait près de Jésus. 1 Jean 3, 2 dit bien-aimé. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. As-tu donné à Dieu ce qui appartient à Dieu? T'es-tu donné à Dieu? Mais tu dis, moi, je n'ai pas grand-chose à y offrir. Si tu savais, si tu me connaissais, ma vie est tout croche. Je suis pas encore assez digne pour venir à Dieu. Mais pourtant, le Seigneur est venu justement pour toi. Il est venu pour nous. Pour moi, qui avons gâché notre vie. Un jour, il y avait un violoniste, c'était vraiment renommé, bien connu. Et il a joué, il est venu pour faire un concert, donner un concert devant une foule de personnes très en vue, très respectées. Alors, il arrive à l'extérieur, il arrive ici sur la scène, juste devant la foule pour jouer sa pièce. Mais juste avant la pièce, il a pris son violon puis il l'a montré à tout le monde. Il dit, regardez ce violon, il dit, c'est un Stradivarius. Le violon le plus rare, le plus prestigieux, le plus dispendieux dans le monde entier. J'ai même lu à quelque part un des violons s'est vendu au-delà de 44 millions, si ma mémoire est bonne, je ne me souviens pas. Stradivarius. Il dit, le violon le plus rare, le plus prestigieux dans le monde. Il prend, il commence à jouer une pièce qui était tout à fait fantastique, sublime, un vrai chef-d'œuvre. À la fin de la pièce, évidemment, les gens se lèvent, c'est l'ovation, ça applaudit, tout ça. Et tout d'un coup, le violoniste prend le violon, le lance sur le plancher, saute dessus, le brise en 1000 morceaux. Les gens sont estomaqués, muets d'étonnement, sont tous là, tout le monde arrête. C'était le silence dans cette grande foule, tout le monde. Et il dit, voyez-vous, il dit, je veux vous dire une chose. En fait, le violon que je viens d'écraser, de détruire, vaut 40 $. C'est pas un Stradivarius. Mais je voulais faire un point avec vous. Je voulais faire un point. Il a dit, le violoniste est beaucoup plus important que le violon. Et là, ce qu'il a fait, il a sorti le vrai Stradivarius. Et là, il a commencé à jouer une autre pièce. Et il a fini son concert, en fait. Vous savez, ce qui est vrai avec la musique, c'est également vrai avec nous. Ce n'est pas nos talents ou ce que nous sommes, ou même nos vies brisées. En 1000 morceaux, qui va faire la différence. C'est celui qui joue la musique qui compte. C'est le violoniste. C'est le Seigneur. Nous, on est que des violons. Mais dans les mains du Maître, il peut faire de la belle musique avec notre vie. Il peut prendre nos vies bien ordinaires, nos dégâts même, et en faire un chef-d'œuvre. C'est ce que le Seigneur Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Amen. Alors, donnons-nous à Dieu. Donne-toi à Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin, on veut te remercier parce que Jésus est l'image parfaite de Dieu qui t'a été rendu. Oui, Jésus s'est livré à toi. Il a rendu à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et grâce à son sacrifice, maintenant, Seigneur, tu peux me changer, me transformer. Pourquoi aller ailleurs, Seigneur? Pourquoi nous éloigner? Pourquoi nous rebeller? Tu es le violoniste. Tu es celui qui peut prendre notre vie et en faire un beau concert pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. On te prie, Seigneur, si quelqu'un ce matin est ici, ne te connaît pas encore comme son sauveur, on te prie que ce matin, ne quitte pas ce lieu avant de dire oui à Jésus. Qu'il se donne à toi, qu'il demande à Jésus de venir dans sa vie, de le sauver. Et pour nous qui avons plusieurs années parfois dans le Seigneur, parfois on abandonne, on oublie, on s'éloigne, on fait à notre tête. On veut se rappeler, Seigneur, qu'on t'appartient. Nous sommes à toi. Tu as payé cher. Tu as payé cher le sacrifice de Jésus à la croix pour nous avoir comme enfants de Dieu. Alors, Seigneur, nous te prions. On veut s'abandonner à toi, Seigneur. On veut revenir à toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.